CVFM présente Associativement Votre, le rendez-vous des associations de notre territoire.
Bonjour, c'est Annette. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Associativement Votre, l'émission qui donne la parole au tissu associatif de notre territoire. Nous sommes ensemble pour 30 minutes et aujourd'hui accompagnés de Bruno à la technique. Nous avons le plaisir d'accueillir devant nos micros M. Élie Dunon, bénévole à la LPO. Bonjour M. Dunon.
Bonjour Annette.
Comment allez-vous ?
Écoutez, ça va bien.
Ça va bien, parmi nous. Monsieur Dunon, dites-nous ce qu'est la LPO.
Alors, la LPO, le sigle signifie la Ligue pour la protection des oiseaux. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui sont protégés, hein, c'est l'ensemble des êtres vivants. C'est une association, loi de 1901, qui est la plus ancienne association qui s'occupe de protection de l'environnement, puisqu'elle est créée en 1912. Et donc cette association, elle est présente dans tous les départements de France.
Ouais, elle est nationale ?
Nationale, métropole et aussi outre-mer, elle est présente aussi plus loin. Et elle est associée à d'autres associations à l'international, hein, comme en Angleterre, BirdLife, etc. Et donc c'est vraiment une association qui a énormément de ressources documentaires et beaucoup aussi de formations qui nous sont proposées. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, je dirais, c'est une association qui a beaucoup apporté sur la protection de l'environnement depuis sa création.
D'accord, ok. Et dans le Vaucluse, la LPO, elle est représentée comment ?
Alors, dans le Vaucluse, il y a 4 groupes présents. Ici même, le groupe Ventoux.
Oui.
Et puis, il y a aussi le groupe d'Avignon, qui s'appelle le Héron d'Avignon. Il y a le groupe Monde du Vaucluse, LMV, qui se trouve entre l'île sur la Somme et Cavaillon. Et puis, il y a un autre groupe sur Pertuis.
D'accord, vous êtes 4. Il n'y a pas un endroit un peu plus où on soigne les animaux ou quelque chose comme ça ?
Oui, effectivement, il y a le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage qui se trouve à Bioux, au château de l'environnement, et qui s'occupe justement de venir soigner tous les oiseaux blessés, mais pas que, hein, c'est aussi tous les mammifères, rongeurs, reptiles, enfin tout ce qui est vivant. Dans la grande majorité, passe par là-bas. Je ne veux peut-être pas être aussi exhaustif que ça sur les nombres d'espèces, mais c'est quand même un centre de sauvegarde régional, donc
régional.
Qui s'occupe de l'ensemble des départements de la région. Hein.
D'accord.
Donc ils ont énormément de travaux, de soins, enfin un nombre de choses à faire. Et c'est souvent des bénévoles qui sont à la tâche, hein, donc c'est quelque chose, c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent faire. Quoi. C'est impressionnant. Hein.
Alors j'ai deux questions qui me viennent. D'abord et d'une, il faut rappeler qui c'est qui est à la tête de la LPO, qui en est le président,
oui,
parce que c'est un grand monsieur.
Ah oui, c'est M. Alain Bougrain-Dubourg, qui a été, qui est présent depuis très longtemps, et qui est vraiment exceptionnel comme personnage, que je n'ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer directement, mais bon.
Ça se fera.
Oui, espérons.
Ça se fera. Et puis, je vais vous demander... Bon, je ne sais pas si au niveau national, vous connaissez le nombre de bénévoles, mais au moins au niveau...
Alors, de mémoire, c'est peut-être un peu ancien, ce que je vais vous dire. C'est peut-être autour de 8000 bénévoles.
D'accord.
Mais peut-être je suis en dessous. Je sais qu'il y a plus que ça, en tout cas.
Et sur le Vaucluse, à peu près ?
Ah, là, vous me voulez une colle. Parce
qu'en fait, j'aime bien.
Ça dépend des groupes.
Ah, j'aime bien.
En fait, des bénévoles, vous avez toujours pareil. Vous avez des bénévoles qui sont plutôt actifs, d'autres qui le sont moins... Déjà pour le groupe Ventoux, on sait très bien, on peut être en gros entre 15 et 20 dans l'activité,
ouais.
Le bénévolat. Et puis il y a pas mal d'inscrits autour, ça peut entre 150 et 200 personnes certainement, je pense.
Et ceux qui travaillent véritablement, 15-20 ?
Travail, on est amateur, on n'est pas en travail, on est des bénévoles. Quoi.
C'est un bénévole, mais quand vous allez compter... les hirondelles ou ainsi de suite, vous êtes à peu près toujours les mêmes ?
Alors, ce qui est bien, c'est que depuis la sortie du Covid, on remarque quand même un regain d'intérêt. Ça, on s'en est bien aperçu. On a un peu plus de personnes qui s'intéressent vraiment à la protection de la nature. Et par la LPO, moi qui m'occupe des hirondelles et des martinets sur tout ce qui est inventaire, j'ai un peu plus de personnes qui ont envie de nous aider. Ça, c'est vraiment super. Et c'est, je pense que l'effet Covid a vraiment boosté le nombre, on va dire, d'adhérents à l'LPO, je pense.
Ok. Bah, moi, je voudrais que vous me parliez de vous, monsieur Dunant. Oui. Parlez-moi de votre... Parce que c'est une passion. On n'est pas à la LPO comme ça. Il y a quelque chose derrière.
Alors, moi, je suis amoureux de la nature depuis que je suis tout petit. Et je suis né à la campagne. De fait, j'ai fait mes premiers pas dans la nature très tôt. Et tout de suite, ce qui m'a donné envie de m'intéresser à la nature, c'est parce que j'ai commencé par observer des plantes. Je suis pas du tout un ornithologue averti. Je suis surtout intéressé par la nature dans son ensemble, dans sa globalité. Moi, je suis fils de maraîcher, hein. Je suis né à Château-Renard. Et j'ai eu la chance, dans la maison à Château-Renard, d'avoir une mare qui se trouvait à peu près à 100 mètres de la maison. Et en fait, j'étais tout petit, je passais tout mon temps à observer les animaux de la mare. Et c'était un apprentissage pour moi très intéressant parce que en même temps, j'apprenais tout seul. J'apprenais à connaître les espèces de la mare et pas que les végétaux aussi, tout ce qui vit dans la mare. Et ça, c'était ma première passion. Ensuite, je suis allé plus loin en botanique, vraiment. À 12 ans, j'avais un herbier, je pouvais collectionner entre 300 et 350 plantes en termes d'identification. À partir de là, après, sont arrivés les insectes qui m'intéressaient parce qu'ils vivent sur les plantes. Et puis, des plantes aux arbustes, des arbustes aux arbres, aux forêts. Et dans les forêts, eh bien évidemment, tout ce qui vit dans la forêt. C'est-à-dire... ça peut être des écureuils, ça peut être aussi des oiseaux. Et là, j'ai commencé après à m'intéresser à tout ça, quoi.
Ouais. Vous avez réussi à vos deux passions, parce que la botanique, elle est là, et les oiseaux, ils sont là. Et vous arrivez à faire les deux en même temps aussi?
Oui, parce qu'en fait, la botanique, pour moi, c'est quelque chose qui était acquis de très tôt. Et les oiseaux, par contre, je ne suis pas un ornithologue chevronné. Je me suis intéressé à un groupe d'oiseaux qui était plus facile pour moi, qui sont les hirondelles et les martinets. Alors pourquoi? Parce que pour moi, ce sont des oiseaux mythiques, ce sont des oiseaux des villages. Mmh. Et ils sont complètement associés à l'humain.
C'est exact.
Et ça m'intéressait beaucoup parce qu'en plus, la facilité, c'est qu'on le voit facilement. On ne va pas chercher dans les forêts, hein, ils sont là. Et puis, c'est extraordinaire parce qu'on est là sur les oiseaux migrateurs. Mmh. Et donc, sachant, par exemple, que Martinet peut faire entre 9000 et 12000 kilomètres pour venir nicher chez nous, ça m'a toujours impressionné. Un Martinet qui est capable, après sa naissance, pendant 2 à 3 années, de voler sans interruption, il ne se pose pas. Pour moi, c'est des oiseaux, mais c'est des animaux exceptionnels. Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis, les hirondelles, en fait, elles ont une beauté, prenons une hirondelle rustique, hein, c'est ce qu'on appelait avant les hirondelles de cheminée. Elles ont des vols très beaux, très fluides. Et elles ont une beauté aussi, ce sont des corps qui sont très bien, enfin, les corps de ces oiseaux-là sont très bien formés, je trouve. Donc il y a cette beauté, en même temps, la fascination de ces oiseaux.
Voilà, l'hirondelle fait le printemps.
Oui.
Exactement ça. Hein. Et c'est vrai, en vous écoutant, on sent votre passion. Et on sait que... Enfin, les hirondelles et les martinets, ils vivent avec nous, mais on ne les voit pas. On ne les voyait pas. Enfin, on les regarde voler. Mais grâce à vous, vous apportez quelque chose, ils sont vivants. Moi, je ne savais pas que les martinets, ils dormaient aussi en vol.
Ah oui, ils dorment en vol, oui.
Ça, c'est une chose que je me suis... Et je me suis dit que peut-être ceux qui tombaient dans ma terrasse, c'est peut-être parce qu'ils dormaient et qu'en fin de compte...
Ceux qui peuvent tomber sur la terrasse, c'est peut-être, on va dire, les adolescents, hein, ceux qui sont prêts à s'envoler pour leur premier vol et qui n'ont pas eu, si vous voulez, suffisamment d'espace pour prendre leur envol. Et ça peut être un problème. Un martinet qui tombe à terre ne peut pas repartir parce que ses ailes sont... bien trop grande par rapport à ses minuscules pattes.
C'est ça.
Un martinet ne peut pas se percher sur un fil électrique. Et c'est pas possible. Voilà.
Ce qu'ils font le soir, enfin, il y en a de moins en moins, et on va en parler tout à l'heure. Ce qu'ils font, souvent, vous savez, ils tournent ensemble. Moi, je dis, ils font du charivari. C'est là où ils mangent, c'est là où ils s'amusent, c'est là...
Alors, ce qu'on appelle, nous, les escadrilles ou les rondes sonores pour les martinets noirs, en tout cas, ce sont souvent les jeunes de la deuxième année, donc en fait, l'année qui suit leur naissance. Ils vont se retrouver ensemble et en fait, ils vont faire ces rondes sonores à proximité de leur lieu de naissance. Alors, pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils marquent d'abord leur territoire en faisant ça, parce qu'ils crient. Donc, ils ont un cri assez puissant, les martinets. Et surtout, en fait, ils vont repérer, en faisant ces rondes-là, les sites de nidification qui leur seront possibles l'année suivante ou la deuxième année qui va suivre. Alors, pourquoi? Parce que les martinets ne sont pas matures dès la première année. Ils ne peuvent l'être qu'à partir de la troisième, voire la quatrième année. Mmh. Et en fait, ces oiseaux qui font les rondes sonores sont en général des jeunes. Il peut y avoir des adultes, mais les adultes sont très occupés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils arrivent chez nous à partir du mois de mai, à partir du 10-15 mai, leur préoccupation majeure, c'est d'aller nourrir... Donc, d'abord s'accoupler, puis ensuite nourrir... Le mâle va nourrir la femelle pendant qu'elle va... Et donc, en fait, eux, ils ne sont pas à s'amuser à faire des rondes sonores. Ils vont chercher des insectes volants. Un martinet, ça va être une quarantaine, on va dire, de bols alimentaires à amener aux oisillons par jour. Et ça peut aller jusqu'à 10 000, voire plus, on ne sait pas trop, mais entre 10 000 et 15 000 insectes volants par jour consommés.
D'accord.
Donc c'est énormément de temps à passer pour chercher de la nourriture. Donc en fait, ces adultes ne sont jamais trop dans les rondes sonores, comme vous dites.
Bah oui, ils ont des problèmes d'adultes.
C'est ça.
Il y a une autre, enfin, je ne sais pas si c'est un mythe, mais il disait aussi que les martinets, ils s'accouplent en vol.
Ah oui, ils s'accouplent en vol. Alors bon,
ils font tout en vol.
C'est des acrobates, donc ils peuvent tout faire, on peut tout imaginer. Ils boivent des gouttes d'eau. Quand il pleut, ils peuvent très bien boire des gouttes d'eau, des pluies, mais ils boivent aussi sur des étangs, des espaces un peu comme un canadair, donc ils prennent l'eau comme ça. Qu'est-ce qu'ils font en l'air? Ils vont utiliser des brindilles et des plumes et tout ce qui leur permet pour fabriquer, un nid un peu plus douillet pour les oisillons. Tout ça, ce sera dans le ciel. Et puis, ils vont dormir. Ils vont, le soir, ils vont monter en altitude. Ils vont monter jusqu'à 2000, 3000 mètres d'altitude. Et là, ils vont dormir. Alors, comment ils font pour dormir en volant? C'est assez particulier. Et en fait, ils vont dormir par intermittence. Un hémisphère cérébral va dormir pendant que l'autre est en éveil. Et au bout de certains temps, on ne sait pas trop si c'est une demi-heure ou une heure, il y a inversement du processus. Et un hémisphère se repose pendant que l'autre est actif et vice-versa. Voilà.
C'est le seul oiseau qui fait ça?
À ma connaissance, oui. Peut-être au niveau du monde entier, il y a peut-être d'autres oiseaux. Mais attention, je ne veux pas...
Oui.
À ma connaissance, oui.
De ceux que nous connaissons, au moins dans le Vaucluse.
Voilà. Alors,
on va dire ça.
On va être précis.
On va dire ça. Ben écoutez, on va faire une petite courte pause musicale. On y va, Bruno?
On va écouter « Fais comme l'oiseau » de Michel Fugain.
Pur et d'eau fraîche, un oiseau. amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois pas.
Écoutez associativement votre, le rendez-vous des associations de notre territoire.
Annette, associativement votre, de retour devant nos micros, toujours avec Bruno la technique évidemment, et toujours avec monsieur Élie Dunan de la LPO. Et de sa passion, parce que franchement, ce monsieur, il est très, très passionné. On va parler des martinets, on a parlé des martinets, et les martinets, c'est pour moi un oiseau véritablement sympathique. Mais on peut parler des hirondelles aussi.
Bien sûr.
Parce que tous les deux...
C'est pas la même famille, hein, donc la famille des hirondelles, c'est les hirondinidés. Donc nous avons ici, on va parler des deux plus facilement visibles.
Oui.
Nous avons l'hirondelle rustique, qui avant s'appelait l'hirondelle de cheminée, qui, elle, nidifie plutôt dans les granges, hein, à l'intérieur des bâtiments. Et puis, il y a l'hirondelle de fenêtre, qui, elle, est plutôt visible à l'extérieur des bâtiments et qui va nidifier, en général, on les voit nidifier sous les génoises des toits. Et là, c'est les hirondinidés. Et puis, le martinet noir, qui aussi vit dans les centres des villages, c'est des apodidés, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle c'est plus près du colibri, en fait. C'est bizarre, hein, ce que je vous dis.
Ah oui.
Il est plus près du colibri que de l'hirondelle. Et en fait, il a des pattes extrêmement atrophiées. Hein. D'ailleurs, le nom latin de martinet, c'est apus, hein, ça veut dire sans pattes. C'est un oiseau qui est assez particulier.
Mais c'est vrai que quand on les voit tous les deux, ils se ressemblent un petit peu.
Alors...
Et l'un qui est plus
de loin, on pourrait faire un peu, on pourrait se tromper. De près, pas du tout, puisque, enfin, de près, le vol de martinet est beaucoup plus rapide, hein, d'abord. Et puis, les ailes, le port des ailes est plutôt en forme de faux, en fait, c'est toujours en arrondi. Ce qui n'est pas le cas des hirondelles, qui ont des ailes beaucoup plus rectilignes. Et puis, le martinet fait deux fois le poids d'une hirondelle, il est beaucoup plus gros. Ça, et puis après, enfin, c'est toujours pareil, quand on est à force de les voir, on ne se trompe plus, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, les vols sont très caractéristiques. En fait, un vol d'hirondelle rustique est extrêmement fluide, un vol d'hirondelle de fenêtre est un peu plus plané, moins fluide, un peu plus lent, et un vol de martinet est beaucoup plus rapide, c'est un acrobate des airs, hein, un martinet. Et puis il va beaucoup plus haut aussi dans le ciel, hein. Voilà.
Ouais. Mais c'est vrai que vous dites toujours que quand sur un fil électrique, c'est forcément des hirondelles pas des martinets.
Ah, c'est sûr.
Le commun des mortels, des fois, dit « Oh bah tiens, une hirondelle, un martinet ?»
Sur un fil électrique, ça ne peut pas être des martinets.
Mais non. Et non. Moi, j'ai vu leurs pattes, elles sont comme ça.
Ah oui.
Elles sont comme ça, c'est pas possible. Alors, les hirondelles, elles font un nid avec une particularité, elles font des nids avec de la boue.
Voilà, mais les hirondelles, que ce soit les hirondelles rustiques... comme les hirondelles de fenêtre, ont besoin d'une boue mélange de limon, d'argile et de sable. Alors ça, c'est pour les hirondelles de fenêtre. Elles vont mettre un peu de leur salive. Et ce salive va faire un peu liant, ça va faire un petit peu comme un genre de ciment. Et ça, ça va permettre au nid de rester suffisamment solide malgré des pluies qui pourraient venir en humectant le nid, faire que le nid va s'effondrer. Donc en fait, il va être un peu plus solide. Et puis là où c'est intelligent au niveau des hirondelles, c'est qu'elles vont chercher ce qu'on appelle des turricules de vers de terre. Vous savez, quand les lombrics font des turricules. Et ces turricules de vers de terre contiennent des substances qui s'appellent hydrofuges, et qui, en mélange avec leur salive et avec la terre, va faire que leur nid va ne pas s'humecter facilement. Et ça, c'est vraiment une prouesse de connaissance de la part des hirondelles de fenêtre. Pour ce qui est des hirondelles rustiques, elles vont faire un mélange un peu plus élaboré, parce que ce sont des hirondelles qui sont plutôt près des élevages, et elles vont chercher des pailles, des brindilles, des morceaux de racines assez ramifiés pour consolider le nid. Parce que les nids peuvent, durant les rustiques, peuvent très bien se faire à partir d'un clou sur une charpente. Et elles vont construire à partir du clou. Donc ça veut dire que c'est quand même des enchevêtrements de brindilles. Donc en fait, un nid d'hirondelle rustique est beaucoup plus associé de végétaux secs et de boue quand même. Hein.
Voilà. Et de boue. Enfin. Alors justement, moi je viens de Pernes-les-Fontaines et je me suis aperçu qu'à Pernes-les-Fontaines, ils avaient créé. Mais alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense, sous votre impulsion, ils ont un bac à boue. Un bac à boue pour aider les hirondelles. Et ça, c'est votre idée, monsieur Ménon.
Oui, en fait, on remarquait qu'avec les sécheresses qui peuvent arriver facilement au moment où les nids se construisent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des printemps un peu plus secs, hein, parce que donc, les nids commencent à être reconfectionnés à partir de début du mois d'avril. Hein. Et en fait, si les printemps sont secs, il n'y a pas de boue.
C'est ça.
Et puis il y a un autre facteur qu'il faut comprendre, c'est qu'avant, les hirondelles pouvaient se déplacer en dehors des villages, mais pas trop loin, sur les quelques centaines de mètres. Et avant, les agriculteurs faisaient de l'irrigation gravitaire. C'est-à-dire, en fait, ils faisaient de l'irrigation où ils mettaient de l'eau, un peu à rage, hein, vous voyez, un gravitaire. Et donc, en fait, ça faisait toujours de la boue. Et puis, les chemins n'étaient pas goudronnés.
Oui.
Donc, il y avait toujours des flaques avec de la boue. Sauf que maintenant, eh bien, en fait, il n'y a plus d'irrigation gravitaire. Il n'y a plus de chemins, pas assez en tout cas, de chemins qui font des flaques de boue. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un gros souci, c'est que les hirondelles n'arrivaient plus à trouver suffisamment de boue pour construire des nids. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles cherchaient des flaques de boue à proximité de l'église Notre-Dame de Nazareth à Pernes. Mmh. Et là, je me suis dit, ces boues sont dans l'intermittence sec, et enfin, ces flaques étaient sèches et parfois avec de la boue, mais de façon trop intermittente. Et on s'est dit, bon, on n'a qu'à faire un bac à boue perpétuel, c'est quelque chose qui reste pendant tout le moment où elles vont utiliser de la boue, c'est-à-dire en gros tout le mois d'avril, tout le mois de mai et un peu à partir du mois de juin si toutefois il y avait ça. Et donc on a constitué ce bac à boue à Pernes.
Et voyez, alors ils ont fait un bel article, ils ont montré le bac à boue et je trouve que c'est une bonne initiative de la ville de Pernes, mais sous vos conseils, il faut quand même rendre à César ce qui est à César.
Ben, je les ai dirigés un peu sur ces affaires-là, évidemment.
Exactement. Mmh. Hein. On sait que l'hirondelle et le martinet, c'est des espèces protégées depuis longtemps.
Oui.
Mais on sait aussi qu'elles sont en train de disparaître.
Ah oui, le problème, c'est la ressource. En fait, ce sont des oiseaux qui consomment des insectes volants. Les insectes volants, en fait, viennent des prairies. Oui. Les prairies humides, elles se raréfient, tout simplement parce que on vit une situation quand même hein, de l'extension, on va dire, du bâti. Hein,
exact.
Et de l'artificialisation des sols. Et ces prairies qui, avant, entouraient les villes et villages, peuvent devenir des zones urbanisées. Et en fait, ce manque de prairies freine le développement donc d'insectes volants, parce qu'il faut, pour qu'il y ait insectes volants, il faut de la terre, il faut de l'herbe qui ne soit pas fauchée, il faut des arbustes, des arbres, il faut une certaine humidité. Et quand on réduit tous ces espaces-là, on réduit la ressource, et de fait, la capacité de multiplication de l'hirondelle se trouve vraiment freinée. On a ce frein. Et alors, moi, mon leitmotiv sur comment reconstituer les colonies, c'est dans un premier temps reconstituer les ressources. Alors, j'essaie de mettre de plus en plus de systèmes de réhabilitation des insectes volants. Alors, comment on s'y prend? Je suis parti sur l'idée qu'il fallait faire un maillage beaucoup plus dense de mares naturelles.
Naturelles.
Ce qui permettrait, parce qu'il faut savoir que des mares, on en a perdu 90% en un siècle, hein, dans le département.
C'est énorme.
Et en fait, ces mares, en fait, elles ont l'avantage, si vous voulez, de reconstituer des milieux beaucoup plus riches en insectes volants. Et à partir de ces mares, s'il y en a suffisamment, on va dire, dans une zone assez proche des populations d'hirondelles, on va pouvoir nourrir ces hirondelles. Et du coup, on va pouvoir reconstituer les colonies. Et ça, c'est important parce que depuis maintenant, ouais, ça fait depuis 8 ans, j'essaie de conseiller le maximum de personnes intéressées pour installer une mare de le faire dans leur jardin. Ce sont des mares naturelles.
C'est ce que nous, on pourrait faire. Enfin, ce que les Vauclusiens, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, eux, les Vauclusiens, pour que ces hirondelles et ces martinets, parce que les martinets souffrent beaucoup plus que les hirondelles aussi, et elles disparaissent de plus en plus, les martinets, plus que les hirondelles.
Alors, les martinets disparaissent plus rapidement parce que eux, ils ont un autre souci, si vous voulez, c'est les martinets ne construisent pas de nids. Les martinets vont chercher des trous dans les infractuosités du bâti. Et à partir du moment où on va rénover du bâti, on ne pourra plus avoir suffisamment de nids de martinets. Du coup, eux, le problème est plus, on va dire, un problème de logement qu'un problème de ressources. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le martinet va chercher beaucoup plus loin de la ressource alimentaire qu'une hirondelle.
D'accord.
Ils peuvent faire, dans une journée, une centaine de kilomètres, ils le feront. Une hirondelle ne fera jamais cette distance-là. Du coup, en fait, l'hirondelle a besoin d'une ressource de proximité, ce qui n'est pas le cas du martinet. Et en fait, tout simplement pour expliquer, le martinet, pour nous, en termes d'impact sur la capacité de reproduction, c'est d'abord une capacité de reconstituer des nids de martinet à disposition. Ça, c'est très important.
D'accord.
Donc ça, on va le faire. Et puis, pour ce qui est des zones humides, en particulier les mares, l'intérêt, c'est de rapprocher des mares des colonies d'hirondelles. On va essayer de faire un peu ce réseau de mares en proximité. Alors, attention, pour les mares, tout le monde me dit la même chose. Une mare égale moustique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une mare, vous avez peut-être des moustiques si l'eau est stagnante, mais si l'eau, bouge un peu, parce que vous avez des systèmes, si vous voulez, pour que la mare puisse être avec des cascades, etc., l'eau puisse bouger, il y a beaucoup moins de moustiques. Et surtout, il va y avoir des libellules qui vont s'installer et qui vont complètement prédater les moustiques, hein, les larves de moustiques.
Ok. Bah, je crois que vous avez encore énormément de bénévolement à faire pendant les années qui suivent. Je vous remercie beaucoup parce que je crois qu'on aurait pu partir toute l'après-midi à vous écouter.
Oui,
le sujet, il est moi, j'aime parce que, en fin de compte, il nous a fait connaître ces oiseaux qui font partie de notre vie, mais qu'on regarde même plus parce que ils sont là, mais on les voit presque plus.
Merci
et vous les faites vivre, et ça, c'est bien. Merci beaucoup,
merci
Monsieur
Elignon. Merci.
Bon, écoutez, on se dit à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, écoutez-la, réécoutez-la. Elles sont en podcast. Vous pouvez continuer à écouter et à vivre avec ces hirondelles et ces martinets. Je vous dis à la prochaine.